Bonjour, bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fatman à la technique. Voilà, c'est la première de la semaine. Qu'est-ce que vous voulez? Tout doucement, il y a les températures en dessous de zéro qui disparaissent tout doucement. Je vais pas me plaindre. Je vois le sourire de Nicolas là-bas. Ouais, ça c'est clair. Voilà, première partie d'émission. Aujourd'hui, c'est lundi. Ok, bien sûr, c'est Luis Thibault qui va nous venir parler de sommeil et le poids, le sommeil et le poids d'hier à aujourd'hui. Ça me dit quoi depuis qu'on mange? Voilà, ses effets sur le poids à travers l'histoire de l'humain, quoi. Voilà. Elle est mieux placée pour nous parler de ça. Luis Thibault à 17h, après la première pièce musicale, bien sûr. Et puis, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir quelqu'un qui va nous parler de la Société du patrimoine urbain de Québec, l'îlot des palais. C'est Marc-Antoine Lettre qui est adjoint à la direction. C'est là, dans la vieille capitale. Il sera là en deuxième partie d'émission avec nous. Et tout de suite, on part en musique avec Sting et Shaggy. Morning is coming.
It's a beautiful day for me to rock around your way. Nightingale, why do you wake me so? Sweet Nightingale, you're telling me something I don't know. It's 2:45, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming, morning is on its way. Morning is coming, it's Revelation Day. Sweet Nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say.
Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah.
Morning is coming.
Morning is coming.
Morning is on its way.
It's on its way.
Morning is coming. It's Revelation Day.
It's Revelation Day.
Oh, Nightingale. You broke a dream or I don't live on my own. Oh, Nightingale, I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed. Drag a comb across your sleepy head. Clean your teeth and wash your face. Look like you're a member of the human race.
Wake up, it's a beautiful day. Myself, I wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to the sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. Now miss the morning time back to evening time. This a message when me used to uplift mankind. Whether you know of the bubble or you know of the wine. Enjoy, it's a beautiful time.
Oh, morning is coming.
Morning is coming.
Morning is on its way.
It's on its way.
Morning is coming. It's Revelation Day.
Revelation Day.
Morning is coming. Morning is on its way.
On its way.
Morning is coming. It's Revelation Day.
Sting and Shaggy. Shaggy avec Sting, Sting et Shaggy. Morning is coming. Voilà, wake up and wash your face and brush your teeth, comme ils disent. Lève-toi, brosse tes dents, lave ton visage. Alors, on rigole un peu, mais non, il y a du sérieux qui vient maintenant. On parlait de sommeil et le poids d'hier à aujourd'hui. Ça, c'est sérieux maintenant avec Luis Thibault, qui est déjà au bout du fil. Bonjour, Luis Thibault.
Bonjour, Fulgence Blanc. Bon.
Alors, c'est parti. C'était pour...
Alors, c'est parti, on est en mars déjà.
Oui.
Et puis, je vais vous parler de toutes sortes de choses. Je vais vous parler de l'histoire. Moi, j'aime bien lire les livres d'anthropologie alimentaire parce que c'est important de savoir d'où on vient, d'où viennent ces croyances qu'on a encore parfois.
Oui, Louise, parce que cette histoire. Oui, parce que c'est cette histoire de sommeil et de ses effets sur le poids à travers l'histoire. Vraiment, c'est.
Oui, c'est les croyances que le sommeil peut avoir un effet sur notre poids. Donc, je vous en ai parlé dans la dernière chronique.
Oui, effectivement.
Et je vous ai dit qu'il y avait un lien entre le sommeil et le poids. Je vous rappelle que les petits dormeurs, les gros dormeurs, selon certains scientifiques, ils ont plus de chances d'être en surpoids que les dormeurs moyens, que les gens qui dorment 7-8 heures par nuit par rapport aux gens qui dorment 3-4 heures ou 9-10 heures. Donc, c'est ce que les scientifiques ont découvert. Et puis, ça fait que si on est en surpoids, c'est dans notre société occidentale, en général, c'est pas bien vu. Le surpoids est souvent stigmatisé. On parle de grossophobie.
Malheureusement.
Oui, c'est ça. Donc,
alors que dans d'autres cultures, c'est un signe de beauté. Oui, et d'être bien en forme.
C'est ça, oui. Ouais. Ça dépend des cultures, mais...
Dans d'autres cultures, oui, c'est comme ça. Le surpoids, c'est pas un thème à aborder tous les jours, je dois maigrir.
Non, c'est ça, il faut faire attention. Mais moi, je vais vous faire un voyage dans le temps.
Oui,
je vais vous ramener à l'époque des médecins du monde antique.
Oui.
Qui, eux, voyaient d'un très bon œil un surpoids modéré et un solide appétit. Quand on avait très faim et qu'on était en surpoids, c'était bien vu. Dans l'Antiquité, manger beaucoup et être rond, c'était des signes de santé.
Oui.
Sauf si, dans certains cas, le surpoids rendait difficile les déplacements et aussi les rapports sexuels.
Ouais, parce qu'il y a surpoids et surpoids.
Il y a surpoids et surpoids. Alors, voilà. Ce surpoids-là qui rendait difficile, la reproduction et la mobilité, les médecins de l'époque, ils avaient des traitements bien particuliers. Alors, prenons par exemple Hippocrate. Hippocrate, je vous le rappelle, c'est le père de la médecine.
Oui.
Il classait le surpoids en fonction des humeurs et de la personnalité. Donc, une humeur chaude et humide, c'était le signe d'une personnalité sanguine, des bons vivants.
Oui.
Alors qu'une humeur froide et humide toujours, c'était la personnalité flegmatique des dépressifs.
Ah bon?
Et les bons vivants de personnalité sanguine, ils accusaient souvent un surpoids problématique. Alors, Hippocrate prescrivait à ses patients de personnalité sanguine les conseils suivants. Alors, et ça c'est vrai, j'ai lu ça dans les livres d'histoire d'anthropologie très très sérieux. Alors, pour perdre du poids, il fallait demeurer nu le plus souvent possible.
Ah bon?
Il fallait absorber des aliments secs et dormir sur un lit dur.
Ah bon?
C'était
une époque, hein? C'était une époque, Louise.
mais quelques siècles plus tard, saint gréco-romain, cette fois-ci, qui s'appelait Soranus d'Éphèse, il prescrivait une autre méthode pour aussi corriger un surpoids immodéré.
Oui.
Pour cela, il fallait participer à des concours de chant. Il ne fallait manger qu'un plat par jour, jeûne intermittent peut-être, et dormir le moins possible. Alors voilà les méthodes qu'utilisaient dans l'Antiquité, à l'époque des gréco-romains, les médecins. Mais au Moyen Âge, on voyait aussi de mauvais œil, pas nécessairement le surpoids, mais surtout la gourmandise. Parce qu'être en surpoids au Moyen-Âge, c'est quand même pas si mal. C'était aussi un synonyme de santé, mais surtout de prospérité. Mais la gourmandise, c'était un péché capital.
Oui, c'est ce qui fait, je me rappelle bien de mon enfance. C'est une parenthèse que je vais faire. Quand on s'est retrouvés en groupe à l'école, celui qui finissait complètement son plat, il détestait. C'était un sujet de raillerie, de moquerie, quoi.
Oh, il a vidé son assiette.
Il a tout mangé derrière son assiette. Comment elle est remplie?
Un gourmand.
Un gourmand. Bon,
ça, oui.
Ça vient de loin.
Alors, ben, la gourmandise a été considérée comme un péché capital, donc c'est peut-être resté dans les esprits. Mais aussi, un peu plus tard, il n'y avait pas seulement la gourmandise, mais il y avait la paresse et la luxure aussi, qui étaient des trois péchés capitaux. Alors, à l'époque, eh bien, on prescrivait une hygiène de vie dont le premier principe était de rester sur son appétit. Et là, ça va bien avec l'histoire que vous venez de me raconter. Là. Bon, il ne faut pas tout manger dans son assiette. Mmh. On laissait un peu, ben, c'est bien vu, dormir peu. Alors, l'hygiène au 18e siècle, eh bien, on prescrivait de dormir peu, probablement pour éviter la paresse et éviter les élans passionnels pour combattre la luxure.
Bon. Okay.
Alors, certaines de ces recommandations, ben, elles ont un peu de sens, selon moi. Par exemple, rester sur son appétit, ou du moins un peu, pourrait nous aider à contrôler son poids. Mais aussi, moi, je dirais qu'il faut dormir suffisamment. Il ne faut pas dormir trop ni trop peu. Donc, il faut dormir suffisamment. Donc, la prescription de lit de fer, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et nos experts de la santé, ben, ils ont aussi prouvé les bienfaits de l'activité physique sur la santé et le poids. Quelque chose que...
En tout cas, c'est pas moi qui vais dire le contraire.
Pas très friand. Ça paraît simple, hein, faire l'exercice, mais nous sommes si occupés.
Oui.
Hein, nous sommes très, très occupés. Et faire l'exercice, ben, ça demande du temps. C'est pas évident. Et on va dire, on va faire plus d'exercices, ça demande du temps, mais ça demande aussi de l'énergie. Et je vous parle de ça parce que Hubert Cormier, qui est docteur en nutrition,
oui,
m'a accordé une très belle entrevue la semaine dernière en lien avec un livre qu'il vient de publier qui s'appelle « Chargé à bloc, fini les coups de barre, bonjour l'énergie ».
Ah bon?
Et je trouvais que c'était un livre qui était vraiment tout à fait dans le ton pour débuter ce mois de mars qui est le mois de la nutrition. Donc, ce livre-là, qui est paru aux éditions La Presse, eh bien, non, pas aux éditions La Presse, excusez-moi, il est paru chez Cardinal.
C'est Cardinal.
C'est un livre, gros livre, qui est très bien écrit et qui a une couverture tout à fait ludique. Vous pouvez aller voir sur Google, chargez à bloc, c'est une couverture qui est énergisante. Il y a une personne qui est à vélo, les roues de son vélo, une c'est une tranche d'orange et l'autre c'est une tranche de bagel à grains entiers.
Okay.
Il y a un mouvement dans tout ça, c'est un très très beau visuel.
Ouais, quand tu dis c'est un gros livre, c'est une brique, c'est mis pour de 1000 pages.
Une brique comme le livre Nutrition dont je vous ai parlé au début de l'année, mais c'est quand même un livre assez volumineux,
okay,
assez chargé, comme
okay,
le titre l'indique. Mais c'est un livre qui comprend beaucoup, beaucoup d'informations sur la nutrition. Moi, je trouve ça bien. Hubert m'a dit, bon, certains lecteurs ont dit, ouais, il y a beaucoup de choses, c'est un peu compliqué, mais moi, je dis non, il faut regarder les informations telles qu'elles sont. Si on parle du sucre, on parle des glucides, on parle de toutes les sortes de sucres qui existent. Et c'est important de connaître les termes, de connaître les phénomènes, les mécanismes, les réactions. D'ailleurs, dans ce livre, ben, on parle de faim, on parle de satiété, on parle de stratégie, des trucs pour mieux manger et surtout des trucs pour avoir de l'énergie. Parce que souvent, on se dit, bon, j'ai pas le temps, mais c'est souvent parce que peut-être qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas assez de carburant là, pour faire toutes nos activités, pour faire cette demi-heure de marche qu'on remet toujours au lendemain.
Ah oui, Louise, mais quand on dit, les gens qui disent souvent, je n'ai pas le temps, là, ils se donnent pas le temps.
Peut-être qu'ils se donnent pas le temps.
On travaille pas 24 heures sur 24 heures sur 7, ou bien je ne sais quoi. Quand même, la journée, c'est 24 heures et on travaille, même si tu as un emploi à temps plein ou bien à temps partiel, il faut toujours avoir du temps pour soi.
Mais c'est ça, il faudrait peut-être se faire un petit agenda.
Ah oui.
D'activité autre que le travail.
Et voilà, et surtout pour le bien-être, pour son bien-être. Je crois
bien-être,
pas que les gens qui
faire de l'exercice physique, ça donne de l'énergie.
Ouais.
Et bien manger, ça donne de l'énergie aussi. Comme Hubert me l'expliquait, et c'est quelque chose qui est très très bien connu en sciences de la nutrition, quand on mange bien, eh bien, ça va avoir un effet sur notre glycémie. C'est quoi la glycémie? Eh bien, c'est l'énergie que notre corps produit et le niveau de les, ça nous donne un sentiment d'énergie. Alors, la glycémie, ben, c'est le taux du sucre qui circule dans notre sang et qui va entrer dans nos différents organes et qui va nous fournir de l'énergie. Alors, dans ce livre-là, ben, on parle de glycémie, on parle d'énergie, on parle aussi de trucs quand on va retourner au travail. Là, le travail en présence, ça s'en vient, c'est une réalité. Est-ce qu'on va retourner à nos vieilles habitudes d'aller dans des foires alimentaires où souvent les repas sont très gras, très salés, très sucrés, ou si on ne devrait pas revisiter nos habitudes? Alors, dans ce livre, ben, il y a des trucs pour ben, rendre ces repas, justement, au restaurant, plus nutritif et plus énergisant.
Voilà, et c'est pas une raison pour laquelle il faut boycotter les salons alimentaires. Voilà.
Non, pas du tout.
Voilà, non, je dis simplement que quand on lit,
quand
il faut,
même,
il faut savoir.
Moi, je trouve qu'il faut, ben, il faut enfin, réviser un petit peu nos habitudes.
Oui, oui.
Et pas retomber dans le panneau des aliments gras, des aliments panés, surtout le midi, parce que ça a un effet sur notre niveau d'énergie. Ça peut donner, comme le titre du livre le dit, des coups de barre, donc des baisses d'énergie dans l'après-midi. Et puis, ben, ça a un effet sur notre énergie, ça fait aussi sur notre, ben, notre production au travail, et puis ça peut avoir un effet sur notre humeur.
Oui, 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 ça c'est clair, c'est clair.
Donc
c'est...
faire les bons choix alimentaires, eh ben c'est pas toujours évident. Et puis moi, ben je pense que ce livre-là, qui est quand même ben, une brique, mais une belle brique, c'est bien illustré, il y a oui. plein de couleurs, il y a des, ben c'est un livre qui pourrait vous aider à consommer à petite dose un peu chaque jour. Et puis aussi, ben, on a des spécialistes au Québec. Hubert, il a été formé au Québec. Il y a un doctorat en nutrition. Il faut encourager ces gens-là.
Comme toi.
Ouais, un peu comme moi. Oui,
pas un peu, mais comme toi.
Mais il faut encourager ces gens-là parce que ce sont nos spécialistes à nous. Mm-hmm. Et ce sont des gens qui donnent de la bonne information sur le web, sur le net. Il y a tellement de désinformation en alimentation.
Ah, tout le monde s'improvise spécialiste de la nutrition.
Sur TikTok, il y a des faux conseils de nutrition, il y en a des bons aussi, mais il y a beaucoup de fausseté. Alors, je pense que ça vaut la peine d'investir dans un bon livre de nutrition qu'on laisse traîner sur la table, qu'on peut amener jusqu'à sa table de chevet pour lire le soir et puis choisir les chapitres qui nous conviennent. Et puis, c'est ça, c'était publié en 2021 chez Cardinal.
Ah, c'est tout frais, c'est tout nouveau.
C'est tout nouveau. Et à la fin, eh bien, on a quelques recettes avec des étapes de préparation et des conseils bien particuliers, les conseils d'Hubert. J'aime bien ça, les conseils d'Hubert.
Merci beaucoup.
Donc, moi, j'encourage les écrivains québécois, les nutritionnistes qui ont un bac, une maîtrise, un doctorat en nutrition et qui se donnent la peine d'écrire.
Et tu le fais très bien.
Et puis, je trouve aussi que dans les chroniques littéraires de plusieurs émissions, on ne fait pas assez de place à la nutrition. Donc, moi, j'en fais de plus en plus. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme mot de la fin? Ben, le mois de la nutrition, il ne fait que commencer.
Oui.
C'est un mois durant lequel ben, vous devriez peut-être vous acheter un petit cahier pour écrire ce que vous mangez, vous analyser ce que vous mangez, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, consulter un ou une nutritionniste. Il y en a beaucoup qui travaillent virtuellement en ligne, donc vous pouvez aller puiser leurs conseils, acheter leurs livres et puis vous sentir mieux parce que vous ferez de meilleurs choix alimentaires.
Merci beaucoup, Louise Thibault.
Donc, je vous souhaite un bon début de mois de nutrition et au plaisir de vous reparler la semaine prochaine.
Merci à toi et à toi aussi.
Merci.
Bonne soirée.
Oui, c'est un beau mois pour moi aussi.
Ouais. Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. C'est un petit coin de pays, c'est le
le repère du feu de camp. Est un dépanneur. Il y a une centaine de petites maisons aux mille couleurs des quatre saisons, de vieilles routes sans lampadaire où ce sont les étoiles qui t'éclairent. C'est mon village, mon pays, c'est le coin de terre où j'ai grandi, c'est la forêt, l'odeur du vent, la maison.
Avec Émilie Lévesque, à mon village, le goût du bonheur. Oui, voilà. Avant de passer à la prochaine pièce musicale, rapidement, je vais parler un peu de tennis. La jeune ukrainienne qui devait, normalement, moi je croyais qu'elle allait aller jusqu'en finale, malheureusement, elle a été éliminée. Elina Svitolina a été éliminée en quart de finale au Mexique, à Monterrey. Voilà. Moi j'étais un peu triste hein, parce que je la supportais, ça il faut le dire. Oh, ça m'a tristé un peu. Bon, ouais, je l'ai vu partir, là. Je me suis dit, la semaine passée, j'en ai parlé, le vendredi aussi. J'ai dit, elle avait le vent dans les voiles, ça, il faut le dire. T'es parti, quart de finale, a été éliminée par la Colombienne Camila Osorio, oui. Donc, Svitolina, Elina Svitolina, qui est 15e joueuse mondiale, avait annoncé qu'elle donnerait la totalité de ses gains dans ce tournoi aux victimes de l'invasion russe de son pays natal qui est l'Ukraine. Voilà, elle semblait bien partie d'ailleurs hein, pour les demi-finales et en portant la première manche. Et la Colombienne est revenue en force pour briser tout son espoir et elle est obligée de voilà, prendre son sac et de partir quoi, sortie de la compétition. Ouais. Et puis il y a un autre qui est très content de pouvoir jouer à Roland-Garros, c'est le français Pierre-Hugues Hébert, parce que les sanctions, comment dirais-je, les autorités françaises sont en train de faire tomber cette histoire. Il faut être vacciné ou pas avant de participer à un événement de ce genre. Donc, il est très clair. Il n'était même pas en Australie, tout ça, parce que c'est l'un des joueurs de tennis qui n'est pas vacciné. Hein. Actuellement, il est très content qu'on fait tout tomber, qu'il pourra participer au Roland-Garros. Je reviendrai là-dessus, d'ailleurs. On va en musique pour terminer. Avec Simi, le titre de la pièce, la chanteuse c'est Simi, le titre de la pièce c'est Ayo, afin qu'on puisse passer à la petite pause publicité et recevoir notre invité en deuxième partie d'émission. Allez, c'est parti, Simi, Ayo. Legendary Beat.
My blessing on now, favor for down on me. Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my head shaking, my heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every what I've broken, 'cause I need you to see that you are the reason.
Callum Scott, yeah, you're the reason. C'est le titre de la pièce qu'on vient d'écouter de Callum Scott. Oh, quelle douceur. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Marc-Antoine Lettre, adjoint à la direction de la Société du patrimoine urbain de Québec, l'îlot des Palais. Voilà, pour ceux qui ne sont jamais allés, là, n'hésitez pas, quand il va vous faire donner toute la programmation, ça continue, ça a commencé quand? Voilà, ça a commencé déjà le 5, le 6, le 10, ça va, le 10, on n'est pas encore là, ça continue jusqu'au 13 mars de 10h. Pour ceux qui sont encore en relâche, même si vous n'êtes pas en relâche, vous pouvez en profiter, hein, de 10h à 17h. Donc, l'adjoint à la direction, Marc-Antoine Lettre, est mieux placé pour nous donner tous les détails, même ceux qui sont déjà allés, qui aimeraient repartir, quels sont les nouveaux horaires, qu'est-ce qui se passe. Allez, bonjour Marc-Antoine Lettre.
Bonjour, ça va bien?
Monsieur l'adjoint à la direction.
Oui.
Je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi.
Ça va très bien également,
oui.
Surtout avec la relâche qui s'en vient. Là, c'est toujours une belle semaine. On prend un break du travail, de l'école, puis pourquoi pas venir faire des belles activités à l'extérieur ou à l'intérieur, à l'îlot des Palais dans le Vieux-Québec.
Mais cette histoire de relâche, là, c'est pas partout pareil au Québec. C'est en fonction des régions, en fonction des villes, en fonction de... Voilà. Donc, parlez-nous un peu de cette relâche à l'îlot.
Oui, c'est ça. Comme vous l'avez bien dit, là, si on a des heures, des dates d'ouverture, nous, on est ouvert là, du jeudi au dimanche. Donc, on va accueillir là, dès 10h jusqu'à 17h tout le monde là, à partir de jeudi.
Oui.
Et on a plusieurs activités, comme j'ai précisé, extérieures autant qu'intérieures. Pour notre activité extérieure, une de nos activités phares, c'est les géoralies avec GPS. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on offre nos géoralies. Et là, c'est ça, on a le parcours Vieux-Québec sous la neige qui est toujours en cours jusqu'à la fin du mois de mars
pour faire
place aux autres géorallyes estivales.
Ouais. Expliquez-nous, avant de continuer,
allez-y.
Oui, le géorallye, là. Essayez d'expliquer d'une manière banale à ceux qui nous écoutent, là. Ils vont se dire, mais géorallye avec GPS, Vieux-Québec sous la neige, qu'est-ce que c'est?
Le géorallye avec GPS, c'est inspiré du géocaching. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi le géocaching, ça consiste avec un GPS ou un téléphone cellulaire de trouver une cache à quelque part avec une coordonnée.
Oui.
Donc, dans notre cas, nous, les caches, c'est ce qu'on appelle les caches visuelles.
Oui.
Donc, les caches visuelles, c'est des éléments dans le Vieux-Québec qui sont dissimulés. Ça peut être sur un bâtiment, sur un panneau, ça peut être sur une statue. Et cet élément-là, cette cache visuelle-là, ça donne la réponse au questionnaire, là, en fait, là, au rallye hein, qui est offert aux gens.
Oui.
Et dans notre cas, c'est Vieux-Québec sous la neige, donc c'est thématique là, de le Vieux-Québec l'hiver avec toutes ses traditions. Donc, également, aussi, on a le géorallye sur la route de la bière là, pour les adultes et il y a une dégustation à la toute fin là, à l'Inox ou à la Corrigan qui sont nos partenaires brassicoles.
Moi, ça m'a fait sourire quand j'ai vu le géorallye avec GPS sur la route de la bière. Il y a pas mal de gens qui vont faire cette station-là.
Voilà. Absolument. Puis c'est passionnant. Tiens, on parle de l'histoire brassicole du Vieux-Québec parce que Vieux-Québec, c'est une ville très, très brassicole là, depuis le début de la colonie. Jean Talon, hein, nous, justement, à l'îlot des Palais, on est sur le site archéologique où Jean Talon a fait la première brasserie en Amérique du Nord. Donc, on en parle justement dans notre exposition révélation.
Le même Jean Talon qui a son nom partout, là?
Oui, l'intendant Jean Talon qui a vraiment là, participé à tout ce qui est l'organisation de la Nouvelle-France là, au début. Il a été le premier intendant à venir vraiment en personne en Nouvelle-France. Puis ça, il a établi beaucoup d'industries. À Montréal, en particulier, il avait justement établi une industrie de chapeaux. Et à Québec, là, plusieurs industries, dont la brasserie Jean Talon.
Oui.
Et donc, c'est ce qu'on parle dans notre exposition, parce qu'on est sur le site même là, où il y avait les vestiges de cette brasserie-là.
Oui. Vous êtes originaire de la vieille capitale?
Oui, exactement. Moi, personnellement?
Oui.
Moi, personnellement, non, je suis de Victoriaville. Je suis venu à l'étudier en archéologie à l'Université Laval.
Oui.
Donc, ça fait quelques années que je suis à Québec.
Ah bon?
Absolument. En plus de la région.
Ouais. Non. Vous avez été adopté par la ville. Vous l'avez dit, c'est comme ça, on peut dire.
Oui, le Vieux-Québec, c'est tellement enchanteur qu'on tombe en amour tout de suite. Donc.
Oui. Alors, depuis le 5, le 6, aujourd'hui, c'est le 7. Comment est l'affluence?
Ça va très, très, très bien. On a beaucoup de gens. T'sais, on a eu beaucoup de personnes de l'extérieur de la ville de Québec parce que c'était leur semaine de relâche la semaine dernière. Donc, on avait beaucoup de familles et de gens qui étaient en relâche. pour ce qui est de ça. Et là, cette semaine, on va probablement recevoir beaucoup plus de gens de Québec.
Oui, oui.
À embellir notre semaine.
Est-ce que vous avez une douceur de température là-bas aussi actuellement depuis hier? Non, ici, à Montréal, on a eu une douceur. Aujourd'hui, ça va encore. Il y a une certaine douceur qui
s'installe. Oui, absolument. On a eu une douceur également. Là, c'était un mix là, de pluie et de neige.
Oui.
Mais c'est pas un froid extrême, donc c'est assez agréable pour ce qui est de se promener.
Oui, c'est ce qui fait que j'ai demandé d'ailleurs. J'ai dit, quand c'est doux comme ça, on peut se permettre. On n'a pas besoin d'être habillé comme si c'était à moins 20 ou moins 30.
Exactement.
Ouais. Quels sont les gens? Voilà. Bon, donc, si on n'a pas de cellulaire, on peut pas faire le géo-rallye avec GPS.
Je vous corrige, ça ne se fait pas sur cellulaire. Ça va se faire avec un GPS de marque Garmin qu'on loue justement aux participants. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Mm-hmm. Vous arrivez, puis on va vous introduire à nos GPS là, qui sont super faciles d'utilisation.
Oui.
Et vous ne serez pas dépaysé du tout. Mais c'est justement là, le téléphone. C'est une autre activité qu'on va proposer cet été qui s'appelle Vieux Québec, incroyable histoire. Et là, ça, c'est un style d'activité qui ressemble un peu à nos géoralies, mais avec les cellulaires des gens. En fait, là, les gens vont pouvoir faire le rallye sur leur propre cellulaire. C'est un parcours, en fait. Là,
okay. Qui
ont des incroyables histoires dans la vie.
À partir de cet été 2022, là.
Oui, c'est ça. On va remettre en fait là en place des vignettes parce qu'au lieu de trouver des caches, c'est des petites vignettes qui sont dans la ville.
Mm-hmm.
Et ces vignettes-là, une fois trouvées, les gens avec leur cellulaire peuvent scanner le code QR, entrer l'adresse URL ou utiliser la pastille NFC pour ouvrir en fait une page Internet qui en fait propose un quiz. Donc, c'est 15 destinations dans le Vieux-Québec, 15 quiz. Et c'est toutes des petites histoires là, super passionnantes de la ville. En fait, là, on devrait les réinstaller là, d'ici le début de... du printemps, là, ça va être remis en cours, puis ça va être valide tout l'été et l'automne également.
Oui, 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 oui. C'est toute une histoire quand même, l'îlot des palais, là. C'est toute une histoire.
Absolument. C'est pour ceux, en fait, qui veulent en apprendre sur l'îlot des palais, sur le site même, parce que c'est un site archéologique. Hein.
Oui.
On a deux expositions. Donc, on invite les gens, justement, qui voudraient venir au chaud et au sec à l'intérieur de notre espace muséal. On a deux expositions.
Oui.
Donc, l'exposition Révélation, qui parle vraiment là, des 700 ans d'occupation humaine qu'il y a eu à l'îlot des palais, allant des Autochtones.
Ça, c'est une exposition permanente, parce que vous avez des expositions temporaires aussi.
C'est ça, c'est l'exposition permanente. On a aussi Ici, on brassait la bière, qui est une exposition qu'on a ajoutée il y a quelques années et qui, pour l'instant, est là pour rester. Donc, on est chanceux. On a des objets de collection qui ont été passés par des collectionneurs vraiment généreux. Et en fait, cette exposition-là, Ici, on brassait la bière, c'est un ajout qu'on a fait sur l'histoire brassicole.
Comment vous arrivez à les convaincre, ces collectionneurs-là?
Les collectionneurs, en fait, c'est des gens passionnés comme nous.
Oui.
Donc, on s'entend très bien avec ces gens-là. Puis, tu sais, ces gens-là, ils savent, en fait, que leur objet, ils vont être admirés par des milliers de personnes dans nos institutions muséales. Donc, pour eux, c'est un honneur, en fait, là, de pouvoir nous prêter leurs objets.
Oui.
Donc, c'est sûr que ces gens-là adorent voir leur objet parmi tous nos autres objets de collection, archéologiques,
ou
d'autres collectionneurs qui nous ont passé des objets.
Oui. Ça, c'est l'histoire même, disons, des palais, de l'îlot des palais. C'est l'histoire même depuis du 14e siècle à nos jours, à aujourd'hui.
Oui, absolument. Quand on parle de 14e siècle, hein, comme je vous disais, c'était les Premières Nations. Donc, les archéologues, quand ils ont fouillé, ils ont trouvé vraiment des vestiges là, datant de 1100 à 1300. Ce sont les datations au carbone 14. Donc, c'est vraiment des populations autochtones de la région, en fait, là, qui venaient s'établir sur des petites périodes saisonnières et qui venaient pêcher, en fait, échanger des ressources ou chasser dans le secteur. Et on a retrouvé des artefacts de ces peuples-là. Donc, c'est quand
Il y a
même
plus de 500 000 artefacts. Oh!
Oui.
J'ai vu le nombre, je me suis dit « Wow! »
C'est extrêmement étonnant. Et en fait, là, c'est 36 ans de fouilles archéologiques, l'îlot des palais. On parle de 26 ans par l'Université Laval. Donc, moi-même, en 2016, justement, dans mon bac en archéologie, j'ai fouillé à l'îlot des palais, étant donné que c'est le chantier école, hein, c'est le stage du baccalauréat.
Oui.
Et en fait, c'est ça. Donc, on parle de 26 ans par l'Université Laval, puis une dizaine d'années par la Ville de Québec, avec 500 000 artefacts et écofacts. Donc, quand on parle d'écofacts, on parle de fragments d'os qui peuvent nous indiquer justement l'alimentation de l'époque, parce que les gens, bien sûr, quand ils mangeaient un animal, hein, il reste des os à la fin.
Oui,
donc, on retrouve
là,
des os, mais ça nous indique beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelle partie d'animal ils mangeaient.
Oui.
Donc, c'est toutes des données qui ont été compilées là, à travers les années, puis qui nous en apprend encore là, aujourd'hui par ces analyses-là sur les gens qui vivaient à l'époque.
Marc-Antoine, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'archéologie?
L'archéologie, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le, comment je pourrais dire, c'est le lien étroit qu'on a avec le passé. Quand on tient un objet, un artefact, c'est un lien direct qu'on a avec les gens de l'époque. Bon, direct, pas extra, pas direct, mais par l'intermédiaire d'un objet. C'est-à-dire
oui,
qu'un humain comme nous a utilisé cet objet-là. Mm-hmm. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné là, depuis que je suis tout petit, allant dans les musées et en regardant ces objets-là et en disant que c'est le passé, ces objets-là. On regarde le passé. Mm-hmm. Et tu sais, quand on se penche un peu plus sur l'archéologie, on se rend compte que c'est pas juste des objets, mais c'est des gens qui étaient derrière ces objets-là.
C'est tout un vécu.
C'est ça, exactement. Puis ces objets-là, en fait, nous renseignent sur la vie des gens qui les
c'est
ont
ça.
Utilisés.
Mm-hmm.
Exactement. C'est ça qui est passionnant. Hein. Tu sais, c'est pas de trouver les objets qui valent le plus en archéologie. C'est pour nous, les archéologues, ce qui vaut le plus, c'est la connaissance que nous apportent ces objets-là.
Ouais.
Donc, c'est vraiment ça, en fait, là, qui est passionnant pour les archéologues.
Oh ouais, ouais. Bon, okay. On fait une petite pause musicale.
Oui, bien
sûr. Et puis,
sûr.
On va continuer, on poursuit notre conversation après.
Parfait.
Merci. Ce qui me peine. Voilà, c'est le Suisse. Allez, Manique. Voilà, notre invité est toujours avec nous, Marc-Antoine Lettre, adjoint à la direction de la Société du patrimoine urbain de Québec, qui nous parle de l'îlot des Palais, dans la grande capitale. Alors, l'adresse d'abord, pour ceux qui ne sont jamais allés, quels sont les tarifs, au fait, Marc-Antoine?
Les tarifs, en fait, là, pour nos expositions,
oui.
C'est ça qui est le fun. C'est gratuit pour les enfants, votre 12 ans.
Ah ben, OK.
Donc, ça, c'est le fun. On peut venir en famille avec peut-être nos enfants. Et ça, pour les adultes, c'est 8 $ et pour les seniors, on parle de 7 $ pour les seniors. Donc, ça, c'est pour les expositions.
Oui.
Donc, toutes les expositions, là. Donc, c'est ce tarif-là pour les expositions. Mm-hmm. Et c'est ça, ça l'inclut, en fait, là, pour les petits, un rallye de l'intendant. Donc ça, c'est le fun pour les tout-petits là, de faire l'exposition tout en ayant un objectif qui est le rallye.
Oui.
Donc, ça les maintient attentifs et ça les amène à chercher des petits éléments à travers là, les vitrines avec des artefacts et les panneaux d'exposition avec des images d'époque.
Oui.
Donc, ça s'appelle le rallye de l'intendant hein, qui est offert gratuitement. Pour les géorallyes, ça, en fait, là, c'est 10 $ par adulte. C'est 5 $ pour les moins de 17 ans. Et aussi, là, il y a un forfait famille, donc deux adultes, deux enfants.
Oui.
Donc, ce forfait-là est 25 $ Et dernière chose, l'allocation du GPS est 10 $ Donc, en fait, là, si vous êtes, par exemple, 5-6 personnes, un GPS, c'est suffisant. Si vous êtes un peu plus, ben, c'est sûr que ça peut être plus confortable d'avoir deux GPS.
Oui.
Parce que, bon, que c'est plus facile de pouvoir regarder à travers un GPS quand on est un petit groupe. Donc,
oui,
c'est le nombre GPS souhaité par les participants.
Oui. Et puis en tout temps aussi, pour une réservation, bon, minimum 15 personnes, pour un groupe de 15 personnes, il faut faire une réservation.
C'est ça, exactement. C'est une question qui est souvent posée. Nous, on ne prend pas de réservation, donc on est très conscient de notre achalandage. On n'a pas de problème avec ça.
Oui.
Donc, la réservation n'est pas nécessaire. Vous vous présentez, vous pouvez arriver là, n'importe quand, là, avant 14h30. Donc, on ouvre à 10h. À partir de 10h, là, vous pouvez venir et on va vous accueillir, vous expliquer l'activité. Puis après ça, ben, vous partez. Vous pouvez partir pour quelques heures sans problème, faire une pause dîner. C'est ça qui est le fun, cette activité-là du Géorally.
Oui.
C'est que c'est libre. Hein, vous pouvez partir dans le Vieux-Québec, profiter.
Il n'y a pas de guide qui est devant, parce
non.
que je ne l'ai pas encore fait, moi. Il n'y a pas de guide qui les accompagne, qui est devant, s'ils ont des pépins avec le GPS, pour qu'ils puissent les aider, tout ça. Non, c'est facile
c'est
à manipuler.
C'est très, très simple. Oui, absolument. Après, une petite explication de 5 à 10 minutes. Là,
oui.
Le GPS et la feuille de route là, vous guident. C'est lui votre guide. Il vous guide dans le Vieux-Québec. Et ça, c'est une douzaine de destinations à travers la Haute-Ville.
Oui.
Et après ça, ça vous ramène à l'îlot. Tu sais, ça vous fait faire une boucle.
Mmh.
Et après ça, ben, en fait, on est toujours là pour corriger avec vous, voir vos réponses,
oui.
si ça
oui.
a bien été.
Oui.
Et ben, c'est ça, c'est un parcours là, qui se fait très, très bien là, dans le Vieux-Québec. En environ 1h30, 2h, hein, les gens demandent souvent aussi. Mais tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas, il n'y a pas de contrainte de temps. Vous pouvez en profiter là, pour faire d'autres petits arrêts puis profiter de la journée.
Chacun son rythme.
C'est ça, exactement.
Mmh, mmh. Parlez-nous un peu de la brasserie de Jean Talon.
La brasserie Jean Talon...
Plus de 125 ans d'histoire.
Oui, ben c'est ça, c'est parce que ça l'a fait... En fait, il y a eu 125 ans d'histoire de brasserie. Donc,
oui.
Jean Talon, sa brasserie, elle, n'a duré que 7 ans. Donc, Jean Talon l'a fondé en 1665.
Oui.
Et en fait, 7 ans plus tard, ils ont dû fermer à cause que ça ne fonctionnait pas bien dans la ville.
Ah, les gens ne buvaient pas beaucoup assez de bière à cette époque-là.
Oui, en fait, les gens buvaient de la bière, mais le problème, c'est que la bière de Jean Talon là, était chère. Puis les gens dans la ville de Québec de l'époque, là, c'était souvent des gens qui avaient très peu de monnaie pour payer.
Oui.
Donc, souvent, c'était des paysans. En fait, qui se nourrissaient à même leur terre. Hein. Donc, ils n'avaient pas de richesse pour payer la bière. Donc, eux faisaient leur propre bière chez eux. Il y avait la tradition. Absolument. Il y avait la tradition de bière artisanale.
Oui.
Et ils faisaient leur propre bière chez eux. Donc, la bière, Jean Talon, n'était pas populaire auprès de la population.
Et, c'était pour la haute bourgeoisie, quoi.
Exactement, qui n'était pas encore très présente à l'époque. On parle du tout début quasiment de la Nouvelle-France, vers 1965.
Oui. Mm-hmm.
Et aussi, le problème, c'est qu'on voulait exporter la bière dans les Antilles françaises pour la vendre de ce côté-là. Mais le problème, c'est que la bière prenait 2 à 3 mois en bateau à se rendre. Donc, imaginez un barrique de bière, 2 à 3 mois en bateau, un bateau qui vacille avec les vagues, avec la chaleur.
C'est même pas sûr que ça va arrêter à bon port.
Exactement. Mm-hmm. Donc, la bière n'arrivait souvent pas très bonne à bon port.
Ah, c'était pas une bonne idée à cette époque-là.
Exactement. Il n'y avait pas d'agent de conservation en particulier.
C'est ça.
Donc, la bière était vraiment exécrable. Donc, elle ne se vendait pas dans les Antilles françaises.
Oui.
Donc, vraiment, ça a été vraiment un fiasco. J'exagère un peu, mais ils ont dû fermer la brasserie après 7 ans parce que ça fonctionnait pas bien.
Ah, oui.
Donc, le timing n'était pas bon. Donc, malheureusement, Jean Talon est arrivé avec une bonne idée, parce que, tu sais, l'idée, c'était de transformer les ressources premières de la Nouvelle-France et de les transformer en ressources secondaires pour générer un profit,
oui.
au lieu de tout envoyer à la métropole. Mais, bon, comme je vous ai expliqué, probablement que le timing n'était pas bon à l'époque. La brasserie Jean Talon a dû fermer, mais elle a été réutilisée, cette brasserie-là, et c'est devenu le premier palais des intendants. C'est pour ça qu'on s'appelle l'îlot des palais. Oui, il y a eu plusieurs palais. Donc là, celui que je vous parle, en fait, qui était anciennement la brasserie Jean Talon, là, c'est devenu le premier palais. À partir de 1686, le premier intendant a habité ce bâtiment-là, qui a pris feu en 1713.
Mmh.
Et il reconstruit un nouveau palais en 1716. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est que ce palais-là de 1716, eh bien, on se trouve dedans. À l'îlot des palais. On est dans les voûtes de pierre de 300 ans de ce palais-là. Donc,
wow.
c'est ça qui est exceptionnel.
Wow.
C'est qu'on a un musée à l'intérieur même, un vestige qui est encore vivant.
Oui.
Parce que c'est ça, ces voûtes de pierre-là, qui étaient anciennement là, les caves, hein, si on veut, du deuxième palais, comme on l'appelle.
Mm-hmm.
C'est des immenses vestiges de pierre. Là. C'est assez impressionnant. C'est les plus grandes voûtes de pierre d'époque au Canada. En termes de grandeur...
Au
là, de
Canada,
longueur,
pas au Québec,
oui.
mais au Canada.
Ah, même au Canada. En termes de longueur, c'est les plus longues, parce que c'est un long bâtiment qui était le palais de l'intendant. Mmh. Et là, on a sauvegardé, en fait, là, une voûte sur toute sa longueur. On a réussi à préserver cette voûte de pierre-là. Et c'est notamment là, les Britanniques qui vont prendre le palais à la fin de la colonie, qui vont préserver le palais, qui ensuite va être détruit lors de l'invasion américaine.
Oh.
Et ensuite, la bière va revenir parce que les voûtes vont être réutilisées par un brasseur qui s'appelle M. Boswell, comme l'expression Boswell de Bin.
Oui.
M. Boswell va établir sa brasserie qui va devenir la brasserie Boswell. Et cette brasserie-là, à partir de 1852, va être extrêmement populaire dans la ville de Québec. Elle va durer 100 ans, cette brasserie-là, Boswell.
Oui, là, tout le monde pourrait se permettre, quoi.
Oui, absolument.
Les gens n'étaient plus aussi pauvres. Voilà, c'est une autre époque.
Voilà, exactement.
Marc-Antoine, avant de terminer rapidement, un dernier mot sur la mini-série de l'histoire du Vieux-Québec. Tous les épisodes sont sur YouTube, là, pour que les gens puissent aller voir aussi en 3D.
Oui, absolument.
L'occupation autochtone, Jacques Cartier, Samuel de Champlain, les institutions religieuses, la fortification française, consolidation des fortifications. Il y a 11 épisodes, je les ai tous vus. J'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est tellement beau le travail que vous faites.
Ça s'écoute bien. C'est toutes des petites capsules de une minute et demie.
C'est ça.
Et chaque capsule est une petite loupe dans le temps. Hein, vous avez bien dit, on a comme toutes les périodes de la ville de Québec. Là. C'est ça, c'est une modélisation faite par la Société du patrimoine urbain, justement, là, il y a quelques années.
Oui.
Mais c'est magnifique. Ça aide vraiment à se visualiser dans le Vieux-Québec, voir qu'est-ce qu'il y avait à l'époque et tout. Donc, oui, j'encourage tout le monde à aller voir. On l'a sur notre site Internet, là, l'onglet, pour aller voir cette mini-série-là et sur notre YouTube également.
C'est ça. Avant de vous laisser partie de l'adresse, s'il vous plaît, de l'îlot des Palais.
Oui, c'est www.ilotdespalais, donc sans accent, juste tout collé, ilotdespalais.ca.
Et l'adresse physique?
Et l'adresse physique, c'est le 8 rue Vallière. Donc, on est situé en basse ville, en fait, en bas de la côte du Palais, près du Palais de justice. Donc, on est entre les deux. On est juste à côté de la Haute-Ville avec la rue Saint-Jean, là, pour ceux qui connaissent un peu le Vieux-Québec.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lettre, adjoint à direction de la Société du patrimoine urbain de Québec, l'îlot des Palais. Merci beaucoup à vous et au plaisir de vous entendre pour d'autres expositions et d'autres projets.
Bien sûr, à la prochaine.
À la prochaine, au revoir.
Bonne journée.
Merci, à vous aussi. Sugarland. Merci beaucoup à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Et merci à Louise Thibault, la chroniqueuse de nutrition, et à notre invité, Marc-Antoine Lettre, adjoint à la direction de la Société du patrimoine urbain du Québec de l'îlot des Palais. Et merci à vous, chers fidèles auditeurs et auditrices. Au plaisir de vous retrouver demain sur les ondes de Canal M. Demain, ça va être la Journée internationale des droits de la femme. La PDG de Visevoix sera avec nous durant toute l'émission. Elle va parler de son émission « Vivement les femmes ». Ensuite, elle sera avec moi pour parler de cette journée spéciale des droits de la femme. Nicolas, à demain. Ouais, on sera avec notre PDG. Hein. Allez, je dis ciao.